Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez FM+, sur le réseau 91 Montpellier, 103.1 Nîmes, et c'est De Visu, donc le magazine bimensuel sur l'actualité des arts visuels et de la performance en région, un magazine proposé par Lise Haute. J'accueille aujourd'hui Anne Fontanesi, directrice de production et diffusion, ainsi que responsable de la programmation des domaines au Centre chorégraphique national Languedoc-Roussillon. Et nous allons parler de performance, plus précisément de son lien avec l'écriture chorégraphique. Anne Fontanesi, bonjour.
Bonjour.
Donc vous avez accepté de venir parler, de venir converser autour de la notion de performance. C'est la deuxième émission que j'ai imaginé de suivre sur ce thème. La précédente portait davantage sur les relations que ce terme met en place vis-à-vis donc de l'histoire de l'art contemporain. Là, on va davantage s'intéresser à ce qu'il en est des liens de la performance avec la danse contemporaine et plus précisément avec les écritures qui s'y déploient. Évidemment, on n'aura pas le temps d'évoquer tout ce qu'il y a de riche derrière cette évocation et derrière ces liens. Néanmoins, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être tirer quelques fils, avoir un petit aperçu de ce qu'il en est, en s'intéressant donc à quatre expositions parisiennes qui ont lieu à l'heure actuelle jusqu'en janvier pour les deux premières et jusqu'en février pour les deux suivantes. Alors je veux parler en particulier de l'exposition Inside qui a lieu à l'heure actuelle donc au Palais de Tokyo. C'est une exposition performance, c'est-à-dire qu'on y vit une expérience unique, une traversée risquée de soi, une odyssée qui convoque toutes les émotions qui font notre humanité, la joie, l'inquiétude, l'effroi, l'horreur, le désir. Je cite ici un extrait du dossier de presse et je trouve qu'effectivement, ce dispositif très particulier qui repose sur une enfilade de salles au sein desquelles les œuvres sont découvertes, et les œuvres sont de différentes factures et produites sur différents supports, il y a du relief, il y a de la vidéo, il y a du dessin sur les murs, etc. Eh bien, ce dispositif rappelle un petit peu ce qu'il en est, donc des dispositifs adoptés de temps en temps par les danseurs contemporains. Il me semble qu'on peut ranger là-dedans la dernière création de David Van Paak, qui s'appelle Veine et qui a été donnée donc début septembre au Cratère d'Alès avec les performeuses Tamar Chelef et Aïna Allègre. On peut aussi évoquer le spectacle intitulé « Indivisibilité » de Laurent Pichot avec Déborah Hay qu'on a vu en juin 2011 dans le cadre de Montpellier Danse. Alors est-ce qu'on peut dire, voilà, la première question va être la suivante, est-ce qu'on peut dire que certains marqueurs donc de la danse contemporaine peuvent être repérés justement dans cette disposition différente, je dirais, de l'espace de jeu, de l'ère de jeu et de la manière dont s'y déploie le mouvement? Est-ce qu'on peut dire déjà que c'est un aspect des relations entre danse contemporaine et performance?
Oui, en tout cas, c'est ce qui est intéressant, c'est que la danse contemporaine s'intéresse aux arts plastiques depuis longtemps, même si c'est depuis peu, c'est quand même depuis longtemps, en tout cas depuis toujours, on a l'impression. Et en ça, c'est actuellement toujours très intéressant de mettre le corps à des endroits et dans des dispositifs qui forcément rappellent les arts plastiques et qui se déploient sous ce qu'on peut appeler génériquement la performance. Donc oui, il y a un lien, c'est un lien qui est depuis toujours, qui existe, et puis certains chorégraphes le développent,
le revendiquent et le développent fortement.
Ouais.
Bien, alors une autre exposition qui va nous amener à tirer à notre fil, donc c'est l'exposition actuellement consacrée donc au Centre Pompidou à Marcel Duchamp. Titre de l'expo, Duchamp, la peinture même, évidemment. Le titre est inspiré, c'est un jeu de mots inspiré par les titres à sous-entendus érotiques et métaphysiques de l'artiste français le plus important du XXe siècle. Il a beaucoup influencé l'art et la chorégraphie contemporaine. Je cite un mot de Simone Forti, qui a été donc une des figures donc de la performance, on va dire, dans la danse contemporaine. Nous savions, dit-elle, que notre grand-père était Marcel Duchamp et que nous avions des liens avec Dada. Nous nous situions dans cette famille-là. Alors, je pense aussi qu'en danse contemporaine, il y a cette histoire de famille, c'est-à-dire de courant.
D'héritage. D'héritage, ouais. Et c'est vrai que c'est pas anodin que ce soit Simone Forti qui se sente l'héritière de Duchamp et puis qui met ça sur un niveau très important, quoi.
Oui, puis il y a cet esprit dada aussi, quand même, hein, c'est l'esprit de la déconstruction. Hein.
L'esprit de la déconstruction, l'esprit de l'absurde, l'esprit de la construction aussi, enfin, de tous ces éléments qui. Quand il n'y a pas de langage parlé, l'abstraction à matière. Quoi.
Oui, tout à fait. Alors, deux autres expos, cette fois-ci, consacrées, donc, l'une à Annie Kitsinfal et l'autre à un artiste canadien que j'ai découvert d'ailleurs à cette occasion, et qui s'appelle David Altmejd. Alors, évidemment, pour Annie Kitsinfal, eh bien, tout le plaisir, c'est de revoir les nanas avec donc, ce caractère à la fois très ludique, très coloré, très joyeux et très orienté à la fois sur un éloge du féminin et en même temps aussi une critique parce que les deux aspects apparaissent. Et puis aussi de voir alors quelque chose qu'on a un petit peu oublié, en tout cas pour ma part, c'est que donc à la fin de sa carrière, elle a commencé donc à faire des peintures au fusil, hein, où elle tirait donc la couleur sur la toile. Et là, ce geste était accompagné de dénonciations très antimilitaristes et aussi elle remettait bien en cause les dogmes religieux. Elle a même exécuter des tableaux qui imitent la forme des triptyques que l'on trouve sur les retables dans les églises, et ça pour montrer peut-être la collusion qu'il y a eu donc dans l'histoire récente, c'est vrai au cours de la Seconde Guerre mondiale et peut-être même pendant la guerre d'Espagne, entre donc les deux pouvoirs, le pouvoir donc des militaires et le pouvoir des religieux. Et en même temps, elle exécute aussi des totems dont l'inspiration est très guidée par la culture sud-américaine, la culture du masque. On voit des emprunts à ce qu'il a né des totems exécutés au Mexique, qu'on voit au Musée anthropologique de Mexico. On voit aussi des choses qui rappellent le masque, enfin des éléments que l'on va retrouver effectivement dans la danse contemporaine. Un petit pas de côté aussi du côté du Canadien que je citais, donc David Altmejd, il fait une exposition qui est signée Flux, et lui, c'est par le courant baroque qui va réintroduire le thème du masque, qui va être lié au thème de la vanité, du crâne, de la figure, et aussi dans des sculptures absolument extraordinaires, intitulées Bodybuilders, constructeurs de corps, qu'on peut traduire l'expression littéralement de cette façon. Et là, on le voit montrer à la fois une statue, et il montrer la main qui est en train de la faire. Donc on a la statue et la main en train de dessiner la forme de la statue. Alors tout ceci pour vous amener sur deux questions. Alors il semblerait qu'il y ait aussi, donc dans la danse contemporaine, sous l'angle performatif, une interrogation qui tourne autour de l'anthropologie.
Oui, alors ça me rappelle un projet moi que j'avais commandé. Enfin, je dis ça comme ça parce que de la question du rituel, de tout ce qui peut être anthropologue, quand on revoit les films de Jean Rouge par exemple, on y retrouve finalement une espèce de force corporelle très forte. La question des enlèvements mythiques. Moi, j'avais assisté plusieurs fois à des colloques à Paris qui m'intéressent fortement, où des personnes se remémorent les enlèvements mythiques. Donc il y a toute cette espèce de phénomène de sortir de soi, sortir du corps. La question du rituel, la question du masque, la question du macabre, enfin tout ça sont des vocabulaires, le fait est qu'ils sont utilisés par des chorégraphes et par des danseurs et dans la performance. Et j'avais invité pour un projet de Robert Stein qui reconstituait un rituel brésilien, j'avais invité Marc Pio qui était un anthropologue et qui donnait un regard sur ce spectacle. Et c'était très intéressant de se questionner sur la tension qu'il peut y avoir entre un anthropologue qui étudie de façon avec véracité des faits et puis quelqu'un qui met ces questions-là sur un plateau et donc qui les met en fiction et en distanciation. Donc il y a des similitudes de groupes, de danse chorale, enfin c'est tout ça sont des vocabulaires ou des univers qu'on peut retrouver en danse.
Alors la performance a permis effectivement l'exploitation des thèmes que vous êtes en train d'évoquer, des retours dans le passé à des choses qui caractérisent bien la danse dans son histoire, puisque au départ la danse est quand même très liée au phénomène du sacré, hein, et donc elle est très liée à des choses qui relèvent non seulement du rituel mais aussi de la transe, hein, des choses comme ça. Et donc, ça a donné lieu à des spectacles très particuliers, par exemple, de la part de la Capverdienne, je pensais à Marlène Montero-Freitas, qui s'est emparée de cette possibilité, mais aussi sous un angle peut-être plus austère, ce que fait Xavier Leroy quand il interroge certaines postures, par exemple, de pédagogue, et qu'il aussi insuffle à un groupe un processus de travail qui va relever des analyses que font aussi les anthropologues.
Oui, oui, c'est tout à fait. C'est marrant que vous citiez deux projets qui ont a priori deux types d'expressions complètement différents. Mais le fait est, Marlène est une jeune portugaise qui nous a montré un spectacle extrêmement tribal. Et puis Xavier sur une autre posture. Et récemment, on a vu, même si le travail était en cours, tout ce qui est s'intéresse aux questions des danses macabres de Anne Collot. Voilà, donc c'est sûr que c'est des sujets qui sont très proches.
Oui, oui, voilà, c'est ça. Et puis bon, enfin, c'est ça. La danse se libère des sujets qui étaient les siens et qui reposaient sur l'héritage classique, bien entendu, la danse classique, mais aussi de la danse romantique, du ballet romantique, de toutes ces mythologies, je dirais, liées au ballet, avec le Lac des Cygnes, enfin, Gisèle, etc. Et puis, elle se libère aussi d'une certaine posture qui est à la fois il y a un style et il y a une abstraction, c'est la danse des années 80, elle se libère aussi de ça pour aller chercher des choses qui sont peut-être plus enfouies, plus essentielles, et à nouveau donc du coup interroger une sorte de présence au monde et de légitimité de l'acte de danse.
Oui, et là je pense spontanément à une artiste qui s'appelle Meg Stuart, qui travaille beaucoup sur la question de l'extase, et voilà, je fais le lien sur cette chorégraphe qui est une chorégraphe suisse et qui dans l'écriture du mouvement même revient, voilà, se libère et revient à des fondamentaux. Enfin, c'est assez difficile d'expliquer, mais ça rejoint ce
qu'on était en train d'évoquer. Ouais. Oui. Alors maintenant, disons, la performance est quand même une chose qui est très analysée sur le plan historique, puisqu'il y a des figures quand même de la performance. Entre autres, donc Yvonne Rainer, je la cite puisqu'à l'heure actuelle, donc la Galerie nationale du Jeu de Paume à Paris lui consacre donc une exposition sous l'intitulé The Yvonne Rainer Project, où tout un ensemble de films sont montrés, puisque on a gardé de cette façon des traces de performance. Elle a, outre Yvonne Rainer, on est obligé de parler de deux autres chorégraphes qui sont Anna Alprin et Deborah Hay. Pourquoi Anna Alprin? Parce que Anna Alprin a vraiment déterminé à partir de 1957 la notion de tâche, qu'elle a substituée à la notion de geste inclus dans un mouvement, lui-même inclus dans une écriture de la narration et du récit extrêmement précis, où elle dit pour définir ces tâches, ce sont des tâches à accomplir, des actions dérivées du quotidien soutenues par un système de contraintes. Leurs enjeux, c'est d'échapper à des réflexes de mouvement, d'inventer un geste direct sans passer par l'analyse, hors de toute partition préétablie. Il s'agit de substituer le temps réel de l'accomplissement de la tâche à l'illusionnisme de la représentation. Alors, il y a aussi donc d'autres aspects très spécifiques de la performance. C'est aussi l'accent qu'il met sur la durée, puisqu'il est question dans une performance de surexposer le processus même qui a qui a été suivi pour aboutir à la présentation, donc plus ou moins c'est le processus de travail qui est exposé en même temps que ce qui est exposé l'œuvre elle-même, et que se joue l'origine chorégraphique de la performance. C'est en tout cas au cœur des pratiques qui ont été mises en œuvre autour de l'école du Judson Church Theatre à New York dans les années la fin des années 60 et le début des années 70. Donc ma question va être la suivante, c'est sur la question de la durée. En quoi cette durée est-elle si importante au-delà même de la déconstruction du geste défendu par Anna Alprin, dont je citais les définitions des tâches?
La durée en tant que...
comme étant un des éléments importants de la performance.
La durée, oui. Alors, c'est vrai que c'est des travaux fondamentaux et qui sont encore énormément d'actualité. Toutes les questions que Rainer a mis en place dans les années 60 sur ces tasks et qui sont un autre rapport à la représentation où le regard n'est pas forcément porté sur des choses spectaculaires dans le sens où les tasks sont des objets quotidiens, a priori, voilà, avec des consignes comme ça très précises. Donc la durée fait partie de ces ingrédients qui constituent, qui vont dans le sens, je crois, de brouiller les pistes avec des formats plus conventionnels.
Oui, des formats narratifs.
Avec des formats narratifs, avec du coup une exposition du corps en souffrance ou en état de... en dépassement de soi, sur des questions de rapport à de médiation au public et aux gens qui venaient voir ça, qui vivaient une véritable expérience. Enfin, toutes les raisons qui font que on est encore en train d'analyser et de revoir encore à Paris, là au Jeu de Paume, le travail de Rainer, c'est que c'est fondateur du regard contemporain sur la danse, quoi.
Et puis c'est aussi la possibilité d'inventer un autre vocabulaire, d'inventer d'autres types de récits, d'autres types d'occupation du temps, justement, d'autres temporalités, de l'espace, etc. Dernier point avant que nous passions à la deuxième partie de l'émission, il y a aussi inscrit dans la question de la performance et de ses rapports avec la danse contemporaine, cette notion de déambulation chorégraphique dans un espace muséal. Donc il y a, j'ai pointé cet aspect parce qu'il y a une actualité en ce moment qui va avoir lieu donc au musée d'art contemporain de Sérignan, puisqu'une déambulation chorégraphique est proposée par la compagnie Singulier Pluriel mercredi 3 décembre de 14 à 16 heures. Et là, on revient avec cette situation de la performance dans le cadre des musées, à ce qu'il est arrivé aussi historiquement à certains des chorégraphes des années 60-70, comme Trisha Brown, de la possibilité de présenter donc de nouveaux modes de déambulation, de nouveaux modes de rapport à l'espace, dans des cadres qui n'étaient pas ceux du théâtre.
Oui, récemment, c'est Boris Charmatz qui investit par exemple le MoMA New York sur une pièce qu'il a créée pour un espace frontal, mais qu'il déjoue, donc il déjoue un peu la temporalité et les consignes au MoMA. C'est Laurent Pichot qui, par exemple, peut-être sur une forme de médiation, apporte une lecture aux œuvres à travers le corps, c'est-à-dire que comment un artiste peut-être se substitue à un cartel et fait lire l'œuvre graphique, plastique d'une autre manière. Donc c'est tout autant de formes d'expérimentation dans l'espace, dans le rapport au corps et encore une fois dans le rapport au public.
Très bien. Alors pour terminer là-dessus, il y a aussi dans la performance, eh bien les femmes ont aussi, je dirais, interrogé cette forme pour pouvoir interroger aussi ce qu'il en était du féminin. Donc on ne débattra pas tout de suite sur le sujet, on en reviendra sans doute dans la troisième partie de l'émission, mais je voulais juste indiquer que dans le cadre des conférences données par l'Agora des Savoirs à Montpellier, donc au Centre Rabelais, il y a donc aujourd'hui, mercredi 26 novembre à 20h30, une conférence proposée par Eliane Viennot, qui est professeure de littérature à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et qui est membre de l'Institut universitaire de France. Elle est spécialiste de Marguerite de Valois et d'autres princesses de la Renaissance. Elle s'intéresse à l'histoire des relations de pouvoir entre les sexes en France et a publié une quinzaine de volumes, fondé aussi la Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime. Et donc, elle intervient mercredi 26 à 20h30. Et donc, nous allons clore sur cette information.
Open your heart, I make you love me. Do 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 do.
Music, music, yeah. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly.
Allô?
Et tu vas, ça coupe là, non? Ah? Allô, papa?
Oui. Allô?
Et qu'est-ce que je voulais dire?
Tu m'entends?
Et ton œil, au fait, ça va mieux?
Oui, oui, ça va mieux, oui.
Et ça y est, hein? Ils l'ont soigné comme il faut.
Oui, oui. Oui, oui, ils l'ont soigné.
Alors là, on écoute un extrait donc de Jonathan Capdevielle qui donc nous sert d'introduction pour la deuxième partie de l'émission de Visu hors les murs. Donc Jonathan Capdevielle est le premier invité donc des domaines. On verra ce qu'il a né donc de ce contexte très précis. On va se centrer sur lui. Donc Jonathan, là ici, c'est un extrait, je crois, donc de Adi Schatz.
C'est ça.
Hein? Dites-nous la raison pour laquelle vous avez choisi de l'inviter déjà. Dans le cadre des domaines.
Alors, je connais Jonathan depuis un petit moment en tant qu'interprète chez Gisèle Vienne. Et puis, forcément, quand on voit cet interprète sur scène, on ne peut qu'imaginer qu'il en a, qu'il a beaucoup de choses à montrer et à dire. Donc, je l'avais sollicité en 2011 sur une commande, en fait, pour faire un domaine, lui laissant libre choix d'inventer une forme. Et il en est sorti un spectacle qui s'appelle Adi Schatz, hein, qui est donc l'histoire d'un jeune... c'est un solo, c'est sa propre histoire de famille. Voilà, il est ventriloque, il a une grosse capacité technique vocale, ventriloque. Donc du coup, il y a un rapport au corps qui est assez présent, mais qui est un petit peu atypique, on va dire, hein, mis en distance avec le travail qu'il a chez Gisèle, plutôt plastique. Voilà, donc ça m'intéressait parce que c'est un être qui est dans une nécessité de créer parce qu'il est jeune. Alors tous les jeunes n'ont pas une nécessité, mais il se trouve que lui je crois qu'il a beaucoup de choses à revendiquer de la question de la fiction et de la distanciation du rapport à la scène. Et finalement, il ne cesse d'être que dans des shows comme ça, où il fait tout Madonna, par exemple, en a cappella, dans des boîtes de nuit. En même temps, il fait aussi le ventriloque psychopathe chez Gisèle Vienne. Donc, il y avait comme ça, pour moi, toute la question du rapport au plateau. Et je voulais lui offrir la possibilité de travailler ça, en fait.
Mmh. Alors oui, mais tout à fait. Donc il est venu là ici pour un thème, on va dire, qu'il explore de différentes façons, puisqu'il s'agit d'histoire de famille et histoire est au pluriel. Il a d'abord animé donc un workshop qui s'est tenu les 8, les 9, le 15 et les 16 novembre au Studio Bagué. Il y a eu aussi le 20 novembre une rencontre au Studio Bagué toujours, où il a évoqué finalement quelles étaient ses sources littéraires pour animer ou irriguer plus exactement finalement les multiples facettes de ses possibilités vocales et des modes d'inspiration aussi qui le traversent. Et puis il va présenter donc Saga, un spectacle qu'il va créer en 2015, hein, et qui donc pour lequel il dit: je souhaite ici poursuivre le travail sur l'autofiction. Mais on écoute un extrait tout de suite d'un entretien que j'ai eu avec lui vendredi 21 novembre.
Notamment dans cette pièce-là, on est complètement dans une histoire à la fois réelle et à la fois de l'ordre du conte, localisée, je dirais, dans les Pyrénées. Donc voilà, c'est d'où le terme aussi de saga. Bon, ça n'a pas le même sens, mais on sait qu'une saga, c'est plusieurs épisodes. Et dans cette pièce-là, rassemble plusieurs épisodes, dont évidemment l'histoire de la famille, sous différents aspects, quoi.
En fin de compte, peut-être que c'est le conteur qui est la figure archétypale autour de laquelle va se déployer des tas de possibles.
Des tas de fenêtres ou de portes ou d'espaces, finalement. En partant de soi, à un moment donné, je dirais, il y a des ramifications et on déploie une dramaturgie de la mémoire, quoi.
Oui. Voilà. Cette histoire de mémoire. Et puis bon, ça permet aussi de jouer de ce rapport de dédoublement, hein, puisque le marionnettiste, il est forcément dédoublé. Les voix aussi vont jouer de ces... Il y a des voix, il n'y aura pas qu'une seule voix.
Il n'y aura pas qu'une seule voix, et puis il n'y aura pas que ma voix. Alors en fait, c'est ça la différence dans ce travail que je suis en train d'opérer ici à Montpellier, c'est que je redistribue le matériel autofictionnel, voire personnel, réécrit et fantasmé, je le redistribue à d'autres interprètes que moi. Donc voilà, j'essaie de transmettre finalement le conte ou l'idée du conteur à d'autres. Tout que, évidemment, dans la littérature, c'est un sujet qui est souvent traité.
Ah bah oui.
Comme dans le théâtre aussi, dans les pièces même de théâtre, ou même dans l'art contemporain, et même dans le cinéma. Voilà, mmh. Bon. Et donc, sur le plateau, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on assiste à un roman vraiment en train de s'écrire. Donc je voudrais partir de l'idée de la page, partir de l'idée du support écrit. Et de ce support écrit, que ça dérape et que le plateau prenne en charge, je dirais, tout ce qui est de l'ordre des scènes familiales ou de cette histoire vécue dans un décalage assez lisible pour le spectateur. D'où la présence d'objets scéniques. Là, je vais parler d'une bête montagne. Ça paraît un peu bizarre, mais on peut déjà s'en faire une image qui serait en fait l'amas de la mémoire, quoi, concrétisé sur un plateau, d'où sortiraient, je dirais, toutes ces scénettes ou tous ces événements qui ont marqué un individu et qui lui ont aussi permis d'avancer en tant qu'individu et de se construire plus tard en tant qu'adulte. Donc voilà, et je trouve que on n'échappe pas à la famille, on peut la mettre de côté, mais je dirais, on y est toujours lié, et où qu'on soit géographiquement parlant, voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose, justement, c'est cette distance, ces différents espaces, ce lien plus ou moins lointain qu'on a avec la famille, j'ai envie, moi, de le reconstituer, donc sur le plateau, et j'aimerais bien que des marqueurs apparaissent à certains endroits, et que le spectateur puisse, à un moment donné, y accéder, et accéder lui aussi à sa propre histoire. Donc voilà, aussi simple. Il y a plusieurs familles. Il y a la famille de sang, et il y a les familles qu'on s'est constituées ailleurs que dans l'endroit où on a grandi, par exemple. Et je pense que ça aussi, c'est important pour avancer, quoi.
Voilà. Oui, oui, d'autant plus qu'elles ont parfois éveillé, réveillé elles ont des réveillé, choses de la famille de sang qu'on avait oubliées, il me semble.
Ah oui, hein? Oui. Ouais.
Voilà, des choses comme ça.
Et dans mon cas, où cette seconde famille a été une famille de théâtre, ça m'a aussi aidé à travailler avec ma famille de sang et à travailler le matériel plus ou moins lointain, qui a un rapport plus ou moins lointain avec ma famille. Parfois, même il n'apparaît pas du tout, mais il me sert dans mon travail au quotidien sur d'autres œuvres que l'autofiction, par exemple. Mmh. On a une violence en nous. Bon. Après, qui est lié à des événements, qui est lié à une manière, à une éducation, qui peut être lié à plein de choses. Moi, je dirais qu'il y a eu de la violence quand j'étais petit, je dirais. Mais elle n'était pas uniquement liée aux adultes, ou à ce que les adultes n'arrivaient pas à maîtriser. Parce que du coup, ça les rendait aussi, finalement, inconscients que les gamins. Donc, tout ça, ça s'est un peu mélangé, adulte-enfant. Donc, c'est une sorte de violence. Et l'enfant, il est, comment dire, par rapport à ça, soit il arrive à être extérieur, soit il est complètement comme une éponge et il est imprégné de ça. À un moment donné, je ne sais pas, après c'est chaque individu, mais moi, je me suis mis à l'extérieur de ça. Donc, je l'ai contemplé, cette violence, en fait. Et ça m'a permis, du coup, de la mettre en hibernation, ces événements-là, ou cette capacité à pouvoir observer la violence, et de la mettre de côté, et la faire ressurgir ensuite dans le travail, dans différents travaux, que ce soit la danse, ou le théâtre, ou la marionnette, ou en l'occurrence, danse-théâtre pour certaines pièces. Et je ne l'ai pas mis en opposition, en fait. Alors, on peut évidemment la mettre en opposition, mais je dirais qu'il y a... C'est aussi séduisant le côté sombre ou le côté la violence et la perfection ou l'imperfection ou tous ces sujets-là. Il y a une beauté de la violence aussi. Voilà, c'est ça que j'ai envie d'exprimer plutôt. Et il y a quelque chose d'attirant. Après, évidemment, c'est dangereux. Donc voilà. Et tout le travail, il est de pas se répandre là-dedans et de pas provoquer une répulsion totale ou une mise à l'écart, je dirais, ou du spectateur, ou même de la forme en elle-même travaillée sur un plateau. Mm-hmm. Et du coup, je m'amuse de ça aussi, de manière très sensible. C'est vraiment... Moi, j'ai l'impression d'être à chaque fois sur un plateau. Quand je suis sur un plateau, j'ai cette sensation d'être sur une crête assez étroite où je peux facilement basculer de l'un, d'un côté ou de l'autre. Donc, autant dans la violence que dans les choses un peu plus...
pure, innocente.
Ou, ouais. Voilà. Et c'est un travail d'équilibriste. Et j'essaie du mieux possible de rester, ni de juger l'un, ni de juger l'autre, et ni de tomber complètement dans l'un et complètement dans l'autre. Donc voilà.
Ça, c'est une posture qui est presque métaphoriquement étudiée dans le cirque, ça. Hein, oui. L'équilibriste. Hein. Mais moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est que lorsque vous êtes sur ce fil du rasoir, sur cette crête étroite, en fait, j'ai l'impression que c'est parce que vous êtes là que vous pouvez avoir de l'humour.
Oui, oui. Et puis, c'est l'âge qui permet ça. C'est le recul, c'est la maturité.
Voilà. Mais c'est le fait d'être là aussi, dans cette situation-là, entre les deux, qui vous permet de satisfaire ce goût que vous avez pour le rire, parce que vous en avez un quand même.
Ah oui, 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 ça je vous l'accorde. J'aurais pu être un clown à un endroit.
Ouais.
Mais bon, les clowns sont aussi violents, hein, derrière.
Oui, oui, ouais, ouais. Oui, oui.
Dans l'innocence ou cruel aussi.
Oui, alors donc, entretien souriant avec Jonathan Capdeville, qui est plutôt quand même quelqu'un de très angoissé, qui met souvent en scène, moi je l'ai vu dans Jerk, notamment très angoissé, mettant en évidence aussi, dans un rapport très très physique, hein, une expérience physique, une traversée physique d'expérience limite. Hein. La question que je me pose, et quand même peut-être pour nos auditeurs, Anne Fontanesi, de se demander pourquoi Capdeville a-t-il une place justement sur des scènes qui par ailleurs montrent des spectacles de danse?
Parce que, alors, je pense pour deux. Bon, il y a différentes façons de l'expliquer. La première, c'est que je crois vraiment qu'il. Enfin, en dehors du fait de s'intéresser sur de la danse ou du théâtre ou. Je sais pas, son premier spectacle, il commence. Enfin, il est très habité corporellement, il ne danse pas, mais il est très habité. Ensuite, il correspond, je pense, de façon un petit peu. On pourrait faire l'analogie avec ces performeurs américains qui savent aussi bien chanter, danser que faire du théâtre. Il y a une espèce comme ça de diversité assez étonnante et assez atypique qu'on n'apprend pas dans les conservatoires. Donc, il y a comme ça. Il en parle très très bien d'ailleurs de sa formation, qui est une formation d'autodidacte, mais sur laquelle il a lui-même réussi à potentialiser les rencontres et à les valoriser, et puis il a quand même, bon après il est très sensible, donc je pense qu'il voilà, il y a une capacité comme ça d'absorption aussi, et puis peut-être pour les raisons que je disais tout à l'heure, parce que je crois que c'est le spectacle d'un artiste, hein, et que ça dépasse les frontières chorégraphiques, enfin je le dirais comme ça, c'est simplement je crois qu'il y a une espèce de générosité comme ça qui est donnée à tous, et le fait qu'il joue sur des limites qui sont c'est les limites dont il parle, de violence, de rire, les limites de la fiction, de la réalité, enfin toutes ces questions-là. Et puis aussi, il y a le cheminement d'un artiste, quoi. C'est la mise en abîme aussi, enfin de mon point de vue, de l'accompagner à ces flashbacks et à cette introspection assez psychanalytique quand même, parce qu'il parle beaucoup, beaucoup de lui.
Ich vergesse, vergesse, vergesse. Ich vergesse, ich vergesse, ich vergesse. I forget. Vergesse, ich vergesse, ich vergesse, vergesse. Vergesse mein, ich vergesse mein, vergesse, vergesse mein, forget.
Troisième partie donc de l'émission, les conversations. Bien, alors toujours en compagnie de Dan Fontanesi, on va s'intéresser maintenant plus précisément donc à la programmation des domaines au sein de laquelle, eh bien, Jonathan Capdeville ouvre le feu donc avec donc la présentation de Saga jeudi 27 novembre à 20h au Studio Bagué. Déjà, voilà un petit mot sur les domaines. D'une part parce que j'aimerais avoir des précisions sur le choix du mot. Et ensuite, quand on écrit domaine, on l'écrit pas n'importe comment, on l'écrit entre deux crochets ouverts, c'est-à-dire on l'écrit au sein de l'intervalle ouvert. Donc il y a aussi le côté graphique. Hein, il n'y a pas simplement le terme et sa sémantique, mais aussi son aperçu graphique. Alors, des informations là-dessus, Anne Fontanesi.
Alors, domaine, c'est une programmation qui se passe au centre chorégraphique et avec d'autres partenaires, qui consiste comme ça à montrer un petit peu les rouages et les arcanes de la création contemporaine. Donc j'invite des artistes qui sont issus du champ chorégraphique, mais pas nécessairement, à se poser des questions sur le rapport au corps ou à la performance, et à développer sur 8 jours différentes manières de se présenter au public. Donc vous citiez Jonathan Capdevielle qui a fait un workshop, qui a joué le jeu d'une rencontre,
avec Aude Lavigne, voilà, de France Culture.
Voilà, et puis qui montrera une étape de travail. Donc tous les domaines se suivent et se ressemblent pas. C'est autant montrer des pratiques que proposer un conférencier. Voilà, c'est l'idée, pour revenir au mot, qu'un domaine est quelque chose de privé, donc qui appartient à quelqu'un et à un artiste, et qui en limite, qui comprend ses limites de jeu, de territoire, de genre, d'esthétique, mais qu'en même temps il est donné public. Un domaine, c'est aussi un domaine public, et qu'il est donné à voir à des gens. Donc il y a ce souci pour l'artiste de pas tout montrer n'importe comment, mais d'essayer de construire sa propre programmation.
Oui, alors ce qui m'intéresse évidemment dans la programmation que vous proposez, outre qu'elle y expose évidemment, comme vous venez de le dire, les rapports au corps pluriels que des chorégraphes, mais aussi des performeurs, mais aussi des gens d'autres origines, comme un conférencier, peuvent nous en apporter des informations, ou peuvent nous en offrir tout un feuilletage de possibles, mais aussi pour la question de la performance, puisque c'est aussi parce qu'il y a eu ce concept de performance que tout d'un coup on a pu déconstruire les vocabulaires et déconstruire les normes. Alors ma deuxième question va porter donc sur le spectacle de la Sud-Africaine, enfin plutôt la présence de la Sud-Africaine Robin Erlin, que vous invitez donc du 16 au 18 décembre. Pour moi Robin Erlin, c'est surtout quelqu'un qui est intéressé par qui fait une espèce de danse engagée, on va dire, hein. Elle le fait en utilisant les possibles ou les méthodes que la performance donne, c'est-à-dire des méthodes du côté de l'improvisation, des méthodes aussi du côté de l'exposition de récits nouveaux, hein, qui peuvent relever de plusieurs niveaux de référence, aussi bien l'enquête que la conversation avec quelqu'un. Et elle est surtout là pour évidemment dénoncer au départ l'apartheid, le sida, les inégalités sociales. Alors à quel titre est-elle invitée là? Je vois le titre vocabulaire personnel d'invention et de perception.
Oui, c'est ce que vous disiez. Donc les normes, il y a des artistes qui travaillent sur des normes de géographique, d'espace atypique. Robin Erlin, elle est plus, c'est un archétype parce que son nom sonne anglais. On pourrait imaginer qu'elle fait des spectacles plutôt formels anglo-saxons. Néanmoins, elle est blanche. Hein, c'est une femme. Elle est sud-africaine. Elle a une éducation assez conventionnelle. Et le fait est, elle est, alors je pense pas qu'elle l'apprécie, mais ça a été dit dans la presse plusieurs fois, Madame Zoulou de la danse contemporaine a déjoué comme ça de façon extrêmement provocatrice, mais au-delà de la provocation, il y a une forme de noblesse dans la vulgarité. Enfin, c'est comme ça que je... Oui, parce que c'est en même temps, ça va tellement loin dans ce qui est finalement divertissant, parce que c'est une forme de divertissement. On n'est pas dans quelque chose d'un langage
conceptuel. Oui, oui.
On est dans quelque chose, vous parlez de conversation, d'enquête, de textos qui s'envoient, qu'elle met sur scène. Voilà, on est dans quelque chose comme ça, un peu trivial. Et du coup, pour moi, il y a une espèce de quatrième degré qui est très complexe et en même temps très lisible. Donc je l'associe bizarrement à d'autres artistes que sont les Pérez Boussiron, qui sont des artistes qui travaillent sur le burlesque de façon extrêmement grotesque. Il y a comme ça pour moi chez Robin Erlin quelque chose de grotesque, vulgaire, trivial, au service d'un propos extrêmement fort, mais peut-être sur lequel on peut passer à côté.
Oui, puis de non, mais vraiment, enfin le spectacle qu'elle a présenté, la création qu'elle a présentée cet été à Avignon, le titre à rallonge parce qu'elle est très familière de cette façon de s'exprimer. Hein. C'était au même moment que vous êtes en train de pointer le droit vers vous, vous réalisez que vous êtes en train de le pointer vers nous. Hein. Je traduis le titre en d'anglais ou en français. Bien, c'était quand même un spectacle qu'elle proposait avec des danseurs de la compagnie Djanbi, issus de l'école de Dakar, Atoubab Diallo. Plus précisément, qui est l'école des sables créée par Germaine Acquigny, hein, et bien au cours donc du travail qui était proposé, enfin de la performance, puisque c'était bien ça, il y avait les éléments qu'on a cités, hein, des interventions, de choses qui étaient filmées en temps direct et retranscrites, du langage envoyé par texto sur grand écran, etc. Quelque chose d'un peu vulgaire dans le sens où les acteurs usaient d'objets extrêmement triviaux comme des bassines de couleurs, etc. Mais au bout du compte, c'était quand même une dénonciation des figures de pouvoir, hein, de la figure du chef, du oui, chef oui. africain.
Avec hein. au milieu quand même des danses traditionnelles.
Voilà. Oui, oui, oui. Et en même temps, il y avait aussi une... Alors ça, c'était très, je trouvais, troublant, parce que c'était pour moi la première fois que je voyais ça chez cette chorégraphe. Elle pointait même la question du travesti, qui est le tabou, je pense, absolu en Afrique du Sud.
Oui,
ou même en Afrique en général.
Oui, oui, qu'elle avait, il me semble, déjà un petit peu évoqué. Elle était venue à Montpellier Danse avec une pièce sur le sida. Et alors, je n'ai pas en mémoire qu'il y avait des travestis, mais j'ai en mémoire, je la revois dans les loges avec des individus extrêmement excentriques. Donc, je crois qu'elle, oui, elle travaille sur des tabous.
Elle travaille, oui, elle travaille sur les tabous.
Et sur les tabous de Atouniévo. C'est-à-dire que même nous, à Avignon, français, voyant ce spectacle-là, on est extrêmement gênés. Moi, j'ai été extrêmement gênée.
Oui, oui. Puis surtout, je pense que c'est le premier tiers du spectacle, les danseurs escaladent les gradins, viennent vers nous et posent des questions gênantes.
Oui, sur les passeports ou sur des situations. Occidentale, quoi.
Oui, puis ils interrogent la question de l'identité, des migrations, de l'immigration, qui sont des questions au centre de ce qu'on appelait l'identité nationale et qui a contribué à peut-être fermer les perceptions plutôt que de les ouvrir.
Oui.
Donc, bon, on est gêné, mais en fait, c'est pas pour rien.
Non.
Alors, autre Anne Fontanesi, toujours avec vous, autre duo, là, cette fois-ci, qui est aussi assez dérangeant. Je veux parler de Cecilia Bengolea et François Chéniaud, donc, qui sont bien connus des Montpellierains, puisqu'on les a vus maintenant à plusieurs reprises. Ils vont venir en mars, à la fois pour présenter un spectacle qui s'appelle Dub Love, et puis aussi pour proposer un séminaire à destination de public mixte, hein, pour confronter l'héritage des danses urbaines avec des pratiques d'éducation artistique et culturelle. Oui. Ce sont aussi des gens qui interrogent beaucoup, je dirais, peut-être tout ce qui tourne autour de l'érotisme, tout ce qui tourne autour de la sexualité. C'est le rapport entre danse et sexualité, on a même vu ça, les questions de genre, donc ce sont aussi des gens qui sont plutôt dans l'offensive, et en même temps c'est très doux. Il y a quelque chose de très paradoxal dans la façon de faire, surtout François Chéniaud, je pense.
Alors François Chéniaud, on l'a vu également sur un solo qu'il avait présenté, donc non accompagné de Cecilia Bengolea. Néanmoins, quand ils sont tous les deux, il y a le fait, il y a une forme de gémellité, c'est un garçon, c'est une fille, il peut être une fille, elle peut être un garçon, donc en fait ils sont un corps, et ils sont un corps de façon extrêmement unie et en même temps de façon extrêmement dissociée, sur lequel finalement on se projette. On projette, vous l'avez dit, de l'érotisme, de la sexualité, du fantasme. Et leur proposition, en général, est articulée de façon assez formelle. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu il y a toujours la question de la contrainte corporelle. Alors, c'est par exemple un sac sous vide dans Sylphide. Ça peut être... ils avaient dansé avec des Gones Michet dans Pâquerette. Ils avaient fait du trapèze dans une autre pièce. Donc là, par exemple, c'est les pointes. Donc il y a quand même... il y a cette identité forte qui est leur identité, leur marque, qui est leur signature, cette question de gémilité. Mais il y a en même temps, c'est toujours au service d'une proposition extrêmement technique. Et quand je dis formelle, c'est que c'est une contrainte, c'est pas forcément formel d'ailleurs, c'est plutôt une contrainte sur une durée. Donc là, dans Dub Love, il danse en pointe sur de la musique dub, qui est de la musique jamaïcaine, qui va absolument pas sur des pointes, mais qui du coup génère comme ça une tension, une certaine irritation, ou alors du plaisir. Enfin voilà, c'est transposer les codes et déjouer ces codes, en plus de leur code identitaire.
Tout à fait, j'ai même entendu dire que d'ailleurs, ils ont tout d'un coup inventé une autre façon de se tenir sur les pointes.
Voilà, hein, à chaque fois avec un nouveau vocabulaire, parce que la contrainte extérieure génère une nouvelle façon de danser. Donc en ça, ils sont vraiment dans de la recherche chorégraphique. Voilà.
Et on les invite pour ça, ils ont été invités voilà, au Ballet de l'Opéra de Lyon, en septembre, pour l'ouverture de la Biennale de la Danse. Ils préparent aussi une création pour le Ballet de Lorraine pour le printemps 2015. Donc il y a chez eux, au-delà donc de ces premières visions que l'on projette sur eux et qui sont liées, c'est vrai, à des questions autour de la sexualité, de l'érotisme, de la gémilité, mais avec tout ce qu'il y a de troubles dans la question de la gémilité, il y a quand même aussi, oui, cette question de l'interrogation sur la signification de gestes techniques,
d'écriture,
extrêmement, je dirais, signifiante dans l'histoire de la danse. Les pointes, c'est quand même, je dirais, le passage à la danse savante à la fin du 18e siècle, entre la fin du 18e et le courant du 19e siècle, on a fait les pointes, parce qu'au départ, on n'en fait pas.
Hein. Exactement, et tout est comme ça chez eux, entre culture populaire et culture savante, puisque la musique est plutôt une culture, le dub, c'est plutôt une musique populaire.
Voilà. Alors, mais en même temps que vous invitez donc ce duo, hein, qui peuvent aussi, pour ce qui est de François Chéniaud, travailler seul, il y a quelque chose qui est pas très loin aussi. C'est l'invitation que vous avez lancée à Olivier Saillard pour le mois d'avril. C'est l'actuel directeur du Palais Galliera, Musée de la Mode à Paris. Il est historien de la mode reconnu. Il a été commissaire de nombreuses expositions à succès. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Vous l'invitez parce que tout d'un coup, un défilé, ça aurait quelque chose à voir avec la danse, un défilé de mode?
Oui, je pense qu'un défilé de mode, ça peut avoir avec la danse. Il suffit de voir les défilés Courrèges dans les années 60, où les filles dansaient allègrement pendant les défilés. En fait, j'aime inviter des personnalités qui mettent le corps au centre de leur travail. Olivier Saillard, quand il dirige le musée Galliera, il a une collection très importante de vêtements qu'il ne peut pas montrer, et du coup, il s'interroge sur les formes de médiation possibles et vivantes, comme un peu un musée de la danse, qui sera un musée de la mode vivant, qu'on peut mettre en place dans ce musée. Donc en ça, ça avait du sens pour moi de l'inviter. Il se trouve que c'est quelqu'un qui décortique le corps et qui fait qui a une approche très intellectuelle de la danse ou de la mode, où il s'agit pas d'un milieu bling bling de paillettes et et superficiel, mais au contraire un milieu de l'artisanat où on est très proche des corps, où on fait du sur-mesure, et tous ces spectacles, enfin ces performances, qui fait plutôt des performances, s'articule sur le geste, sur l'artisanat, comment on habille quelqu'un, comment on nomme l'acte d'habiller quelqu'un, par où on passe pour l'habiller, enfin toute une c'est sur un sujet qu'il traite comme ça de façon extrêmement disséquée. Mmh, sans artifice.
Voilà, oui, et puis ça permet d'instaurer quelques transversales, parce que si on parle de la mode, on va parler aussi de ce qu'il en est finalement dans l'imaginaire du costume de la danseuse, hein, et du danseur, ce qui n'est pas tout à fait anodin. Bien, alors je pense qu'on va arriver vers la fin de notre émission. On aurait voulu aussi parler de Maria Rérez, de Loïc Touzé, ainsi que donc Mette Ingvarsten. Bien, alors je renvoie pour de plus amples informations nos auditeurs au site des domaines. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en fontanésie l'adresse donc?
Oui, c'est www.ccnmlr.com, comme Centre chorégraphique national Montpellier Languedoc-Roussillon.com.
Merci. Donc, quelques spectacles à venir. Donc, Saga, étape de travail de Jonathan Capdevielle, demain, jeudi 27 novembre, au CCN Studio Bagoué à 20h. Citerons aussi de Gisèle Vienne, I Apologize, sur un texte texte de Dennis Cooper avec Jonathan Capdevielle, mais aussi Anya Rodgerkamp et le plasticien Jean-Luc Vernat. Et là, ici, au HTH de Grandmont, le mercredi, du mercredi 3 au vendredi 5. Puis aussi, alors, deux nouvelles d'expo, Enchères et Anos, 70 pièces de la collection d'anatomie de la faculté de médecine qui va être montrée à la faculté de médecine à partir d'aujourd'hui. Et puis aussi, donc, une exposition sur le graphisme japonais underground au Miam A7 jusqu'au 1er mars. Au revoir à toutes et à tous. J'accueille aujourd'hui Anne Fontanesi. Merci de votre présence. À la technique, Stéphane Marin. Au revoir.